Merci d'écouter Radio Kapi et Congolais de l'étranger. Reçoit aujourd'hui le docteur Jean-Paul Mbuyamba Muka, avec qui nous sommes en ligne depuis les États-Unis. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Vous avez quitté la RDC depuis 1998 avec comme destination l'Afrique du Sud pour raison d'études, c'est ça?
Tout à fait.
Et pourquoi avoir choisi seulement l'Afrique du Sud comme pays où aller étudier, pendant qu'il y en a plusieurs aussi où les gens y vont pour des études?
Ok, merci pour la question. En fait, pour moi, le choix de l'Afrique du Sud était plus un choix d'opportunité qu'autre chose. Il y avait des parents en Afrique du Sud qui voulaient bien me donner cette chance d'aller étudier à l'étranger. Donc, peu après que j'ai obtenu mon diplôme d'État en scientifique et puis en maths physique à l'Institut Staoui, donc on est à Likati dans le Katanga, j'ai eu l'opportunité de migrer vers l'Afrique du Sud. J'avais quelques pistes, mais l'Afrique du Sud était la plus sûre, la plus avancée, et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé à Johannesburg.
Quelles ont été les difficultés d'intégration que vous avez rencontrées une fois dans le pays?
Oui, évidemment la langue est toujours une grande barrière quand on va dans un pays où la langue parlée n'est pas sa langue natale. Donc l'anglais a été une des difficultés que j'ai rencontrées, même si Dieu merci pour moi, j'avais déjà quelques notions élémentaires d'anglais, et pour m'y être beaucoup intéressé durant mon cursus secondaire. Donc, c'était, on dirait, un peu plus facile de s'y faire, mais tout de même assez compliqué au début. Donc, la langue, je dirais, a été le plus grand facteur d'intégration auquel il fallait s'adapter. Mmh. Bon, il y a aussi des difficultés d'ordre culturel. Quand de là, dans un pays comme l'Afrique du Sud, venant du Congo, à l'âge que j'avais, bon, il y a quand même quelques difficultés d'adaptation culturelle, mais la langue reste quand même le plus gros obstacle.
Et malgré ça, vous êtes quand même inscrit à l'université de Johannesburg et vous avez commencé vos études donc?
Oui, quelques mois après mon arrivée, j'ai en effet commencé mes études. Donc, à peine arrivé, j'ai fait les formalités d'inscription. Bon, il y avait des délais d'attente. Et entre-temps, je me suis intégré comme je pouvais. Mais oui, finalement, en janvier 2000, j'ai commencé mes cours. J'ai été admis à la faculté de management à l'Université de Johannesburg en spécialisation informatique de gestion, Information Technology Management. Et c'est de là que l'histoire est partie.
Et donc vous avez commencé ces études que vous n'avez pu terminer, si je peux le dire, qu'en 2017, justement parce que vous combiniez des études et un parcours professionnel également. Qu'est-ce qui avait motivé votre choix pour cette option?
Alors, le choix pour l'option, je ne serais pas très honnête de ma part, j'ai quitté le pays avec un choix très clair dans ma tête, à savoir l'informatique de gestion. Mais l'informatique était quand même un des domaines que j'ai privilégié. J'ai fait des humanités scientifiques, maths physiques, donc je me préparais à une carrière d'ingénieur, peut-être à défaut de faire l'informatique, peut-être de faire l'électronique. Mais au moment où j'ai quitté le pays, donc là on est en 98-99, on est à l'aube de l'an 2000 et du tournant numérique qu'il y a eu à travers le monde, parce que si vous vous souvenez peut-être un peu de l'époque, il y avait le grand vent, la vague Y2K. Donc tout le monde me parlait d'informatique, on disait qu'au tournant de l'an 2000 il y aurait beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements dans l'informatique qui auraient des incidences dans presque toutes les professions. Et on parlait beaucoup d'informatique à l'époque, l'informatique allait dans le coup si vous voulez, donc ça m'a beaucoup intéressé, ça me fascinait, je m'informais, je me documentais beaucoup. Et je pense qu'il y a un fait qui n'est pas négligeable, c'est le fait d'avoir accès quasi limité à l'outil informatique, alors que là d'où je venais, ce n'était pas le cas, j'avais un accès très rare à l'outil informatique. Donc, je me retrouve à l'étranger où là où je réside, en famille, on a un ordinateur, on a Internet, et donc je peux m'exercer en attendant d'être admis à l'université. Je découvre quelques compétences que j'ai dans le domaine, et comme j'ai toujours été très curieux, j'ai toujours été assez ambitieux dans ce que je veux faire, je me suis développé une nouvelle passion. Et voilà, l'informatique était mon premier choix. J'avais un deuxième choix en backup, mais Dieu merci, on m'a accepté dans mon premier choix, et je n'ai jamais changé d'avis depuis, et je me suis découvert une véritable passion et j'ai bâti mon métier dessus.
Et je disais tout à l'heure que vous n'avez pu finir des études, au fait, jusqu'au niveau où vous êtes arrivé, que l'année dernière, parce que ces études étaient entrecoupées par un parcours professionnel. Qu'est-ce que vous faisiez entre-temps ?
Entrecoupé, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de voir la chose, parce que j'ai fait l'équivalent d'un graduat, puis j'ai terminé, je suis allé travailler. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à ce niveau-là. Mais pour moi, il était clair que c'était pas qu'à la fin, et puis je suis revenu après quelques années pour faire une licence qui m'a pris 2 ans, j'ai terminé. Entre temps, je travaille toujours. Moi, je travaille depuis, j'ai eu la grâce et la chance de travailler depuis que je suis en GD. Donc, depuis que j'étais en deuxième à l'université, j'ai jamais chômé. Donc, entre deux diplômes, c'est vrai qu'il y avait des fois des breaks, question peut-être de se focaliser sur ma carrière professionnelle ou d'être un peu plus sûr de ce que j'ai envie de faire en seconde phase. Mais, entre-temps, j'ai eu à travailler. J'ai commencé ma carrière, comme je le disais, quand j'étais en GD, j'ai travaillé pour quelques sociétés sud-africaines. Mais c'est lorsque j'ai commencé ma licence que j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler dans un grand groupe panafricain qui m'offrira mon premier job avec de grandes responsabilités. Il s'agit là du groupe Vodacom, qui m'a recruté en Afrique du Sud et formé pour être déployé en RDC lorsque, en 2002-2003, Vodacom Congo est arrivé. Et c'était donc ça, la première chance, si vous voulez, d'avoir une position managériale. Et le reste, après ça, comme on dit, appartient à l'histoire.
Merci à vous qui écoutez Radio Okapi en ce moment. Congolais de l'étranger, reçoit aujourd'hui Dr Jean-Paul Mbuyamba Muka, Congolais qui est parti du pays depuis 1998 pour raison d'études d'abord, et qui aujourd'hui est arrivé à obtenir son doctorat en informatique des gestions. Alors, docteur Jean-Paul Mbuyamba Muka, vous êtes avec nous. Vous êtes docteur en informatique de gestion et on dira que vous êtes le premier docteur en informatique de gestion pour l'université de Johannesburg. Qu'est-ce que ça vous fait ?
Déjà, une grande fierté, une énorme fierté, parce que ce n'était jamais évident. Ce n'était pas un objectif affiché lorsque j'ai commencé. J'avais juste envie de briller, j'avais juste envie d'exceller. Je n'ai jamais eu envie d'être un étudiant, un professionnel ou un individu moyen. Donc, je me suis donné les moyens de réussir. Et arriver à ce niveau de réussite est une consécration qui me remplit de fierté, mais aussi de beaucoup d'humilité, parce que il y en a qui, très sincèrement, ont eu peut-être un bagage beaucoup plus étoffé que le mien. Ont eu un background familial beaucoup plus avancé que le mien, dont les parents peut-être travaillent beaucoup plus bien que le mien. Moi, j'arrive à être consacré à ce niveau, c'est juste un rappel. Rappel que, voilà, je suis appelé à rester humble, parce qu'il y en a qui me regardent, et si je peux inspirer un compatriote, inspirer un frère, ce serait encore une grande fierté. Donc oui, je suis rempli de beaucoup de fierté.
Pendant que vous étudiez, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez comme passion d'accompagner les entreprises dans la transformation numérique. Alors, est-ce que vous avez dans votre actif quelques réalisations, ou vous avez des moments où vous avez réalisé des exploits dans des entreprises, des souvenirs que vous gardez d'un bon travail accompli?
Oui, tout à fait. 18 ans d'expérience professionnelle, c'est quand même une assez longue période qui, dans mon cas, j'avais mis beaucoup de réussite, beaucoup d'apprentissage. J'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de côtoyer quelques-uns des grands groupes de mon domaine, notamment Oracle, IBM, Vodacom, dont je parlais tout à l'heure.
Mmh.
Et à travers tout ce parcours, ça n'était pas toujours facile, mais j'ai eu à être distingué à maintes reprises dans plusieurs domaines, notamment dans le développement des affaires, où je me suis trouvé une grande passion, et dans la gestion des projets. Par exemple, à ce jour, pour faire un exemple typiquement congolais, parce que aujourd'hui, je me considère comme citoyen du monde et j'ai eu la chance de travailler dans une trentaine de pays africains. Et j'ai exercé mon métier où j'ai vécu ou séjourné sur quatre continents. Donc, je suis plutôt un citoyen du monde avec une certaine expérience internationale. Mais un accomplissement qui a toujours rempli beaucoup de fierté, c'est la tâche, par exemple, que Vodacom m'a accordée lorsque je suis revenu dans mon pays en début 2003, en RDC. C'était de monter ce qu'on appelle dans le jargon un project office, donc de devenir le premier gestionnaire de projet, le premier project manager de Vodacom dans le département informatique et facturation, devenir IT si vous voulez. Ce fut un gros challenge parce que j'arrivais et je ne trouvais quasiment rien en place, sauf des individus hyper brillants, triés sur le volet. Vous avez pu constater, lorsque des entreprises comme Vodacom arrivent, ils recrutent la crème de la crème. J'espère que c'est encore le cas.
Uh-huh.
Mais il y avait des intelligences un peu éparpillées et pas toujours une méthode de travail alignée aux meilleures pratiques d'excellence au niveau international. Et j'ai eu la lourde tâche de standardiser la gestion des projets et de monter le project office, ce que j'ai pu faire. Et j'étais même très fier de constater il y a quelques années, lors d'un passage là-bas dans une toute autre capacité, que certaines des bases que j'ai posées en 2003 étaient encore utilisées dans la société. Je ne sais pas vous garantir que c'est le cas aujourd'hui, mais pour les bases que j'avais posées en 2003, je suis repassé plusieurs fois et quelques fois, par exemple, je me retrouvais en 2011-2012 et il y avait encore des germes de ce que moi j'avais posé, des méthodes de travail, voilà, ça m'a rempli beaucoup de fierté. Je me suis dit, tiens, mon passage ici aura servi à quelque chose. Et des exemples comme ça, j'en ai dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de pays. Et encore une fois, c'est un grand motif de fierté pour moi. Donc voilà un peu comment j'y suis arrivé. Puis après, il y a toujours des opportunités qui passent qu'il faut saisir. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut toujours écouter, il faut avoir une dose d'humilité pour se remettre en question lorsqu'il y en a autour de soi qui ne connaissent pas, qui connaissent un peu plus que soi-même. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Il n'y a pas une seule recette magique, mais c'est un parcours. C'est un parcours très enrichissant.
Au vu de toutes les connaissances acquises, au vu de toutes les matières apprises, vous êtes aujourd'hui enseignant, consultant, vous travaillez également, beaucoup d'ailleurs, avoir votre expérience. Pensez-vous un jour retourner au pays, vous y installer et faire profiter vos compatriotes de toutes ces connaissances?
Tout à fait, madame. Je ne pense pas seulement m'installer au Congo, mais je suis déjà installé au Congo. Certes, pas à temps plein, mais je passe déjà une bonne partie de mon temps au Congo. Mmh. Pour moi, le retour en RDC, depuis plusieurs années maintenant, je me suis convaincu que ce n'est même plus une question qui se pose. La question ne se présente pas. C'est juste maintenant une question peut-être des choix personnels, des choix familiales et d'autres opportunités professionnelles notamment. J'ai fait plusieurs pays du monde, comme je venais de vous dire, et dans certains d'entre eux, je n'ai pas fait que visiter, j'ai séjourné pendant assez longtemps. Mmh. Je peux vous affirmer aujourd'hui que, personnellement, j'ai la conviction qu'il n'y a pas un autre pays au monde où j'ai la possibilité d'être qui je veux être. Ce pays, pour moi, c'est le Congo. Il y a peut-être des Congolais qui sont à l'étranger, qui se sont convaincus le contraire, ce n'est pas à moi de les juger, mais moi, je vois mon avenir en RDC. Je ne me considère pas comme un visiteur en RDC, et le fait de savoir au Congo, qui est ma terre natale, qui est la terre de mes ancêtres, la terre de mes enfants, j'ai la possibilité, en dépit des difficultés qui pourraient se poser, comme il pourrait y en avoir dans n'importe quel pays. Et le Congo n'offre une garantie à personne. D'ailleurs, il n'y a aucun pays qui offre des garanties à quelqu'un. Mais moi, quand je regarde le Congo, je ne vois que des possibilités. Et cela me remplit toujours d'enthousiasme, même lorsque ce que j'y fais n'a pas l'impression de tourner aussi fort que j'aurais aimé. Je me dis toujours que s'il y a un endroit où je vais réussir au-delà de toute attente, c'est bien ici. Et je me suis déjà pris de manière très concrète, notamment en créant une petite entreprise, un petit cabinet de consultants au Congo, et en y retournant sous diverses casquettes à travers les années, avec des groupes internationaux que j'ai aidé à implanter chez moi. Et ça, c'est le parcours de toute une vie, et pour moi, ça ne changera pas.
Est-ce qu'il y a des soucis d'intégration pour un Congolais qui veut rentrer chez lui?
Oh, tout à fait, tout à fait. Il y a des soucis d'intégration partout, mais même pour un Congolais qui veut, qui désire rentrer chez lui, ça peut être très compliqué, madame. Vous savez, très souvent, on se dit, lorsqu'on a vécu à l'étranger, lorsqu'on a vécu assez longtemps, et moi je suis quand même parmi ceux qui ont vécu assez longtemps, même s'il y en a beaucoup qui ont vécu beaucoup plus longtemps que moi à l'étranger, mais on acquiert une certaine mentalité, et des fois, ça peut nous jouer des tours. On a tendance à revenir au Congo, se disant que voilà, on apporte une connaissance nouvelle, et de là à tomber dans un peu d'excès de zèle, il n'y a qu'un pas à franchir. Donc, lorsqu'on revient au Congo, pour une raison ou une autre, on se heurte à la vraie réalité, qui n'est pas toujours encourageable, mais c'est la réalité, qui n'est pas toujours louable, mais c'est la réalité. Par exemple, juste la mentalité. Pour un entrepreneur qui revient, qui veut créer une entreprise, qui veut devenir un opérateur économique, il y a par exemple juste la mentalité. Je vais donner un exemple comme ça, PNL, c'est peut-être pas le plus important, mais le marché congolais a ses spécificités qui sont parfois très dures à fermer. En travaillant avec des partenaires sur le marché congolais, on a souvent l'impression qu'il y a un opportunisme à outrance. En fait, beaucoup d'opérateurs économiques congolais n'ont pas appris ou n'ont pas envie d'apprendre que le succès dans les affaires, ça se construit. Le business se construit sur la confiance. Et on a l'impression que, surtout lorsque les autres savent que l'on vient de l'étranger, en fait, on a l'impression qu'on veut se faire rouler à tout bout de champ. Les personnes qui vous approchent, ou les personnes que vous approchez, se font des idées. Ils pensent, par exemple, que si vous avez ramené un peu de capitaux, ils pensent que, voilà, vous les avez ramenés parce que pour vous, tout est facile, vous avez gagné le million depuis longtemps à l'étranger. Alors que non, moi, personnellement, je suis rentré au Congo sans financement d'une décennie. Donc, c'est essentiellement sur fonds propres. Et lorsqu'on pense que, parce que vous revenez de l'étranger, vous avez beaucoup d'argent et qu'on veut vous traiter différemment des autres, ça peut décourager. Voyez-vous. Il y a aussi des problèmes de barrières d'entrée. Pour une petite entreprise, les taxes, par exemple, la fiscalité est trop prohibitive. Lorsque j'ai ouvert mon cabinet en RDC, j'étais choqué, j'étais sincèrement choqué, il n'y a pas d'autre mot, par la multiplicité des taxes qu'il fallait payer juste pour être en ordre avec la loi, et ce, avant d'avoir générer le moindre centime de bénéfice. Ça, j'ai trouvé que c'était aberrant. On est tous les investisseurs, on est tous les personnes talentueuses qui ont une idée à développer au pays. Et moi, j'en appelle au pouvoir public dans mon pays d'essayer de revoir ce problème-là pour que le pays soit beaucoup plus accueillant à ceux qui veulent revenir avec des idées novatrices, parce que c'est nous, les petits entrepreneurs, qui créons de l'emploi. Voyez-vous? C'est nous qui amenons des idées novatrices sur le marché. Moi, j'ai toujours rigolé lorsque je vois un monsieur de ADGI qui, très franchement, m'embête chaque jour pour payer des taxe que je trouve hyper prohibitive, et qui, après notre entretien, me demande, parce que je suis propriétaire d'une petite firme informatique, s'il pouvait envoyer son enfant qui venait de terminer à l'université pour qu'il lui donne un boulot ou pour qu'il lui trouve un stage. Ben moi, je dis, mais cher papa, déjà, il faut que je sois vivant, parce que si demain, en tant que homme d'affaires, j'ai coulé, ben, il n'y a plus de chance que j'accorde un emploi ou un stage en Autriche. Donc, déjà, sans personnaliser le débat, je dis à la personne, il faudrait que notre pays ait des politiques beaucoup plus incitatives pour que les petits opérateurs économiques arrivent à évoluer dans une forme d'incubateur qui les épargne un peu des difficultés d'une entreprise naissante, parce que les statistiques le démontrent dans le monde, beaucoup d'entreprises, le risque de chefs d'une entreprise dans les 2-3 premières années est hyper élevé. Et beaucoup d'idées meurent dans l'œuf comme ça, sans qu'on ait jamais eu la chance de savoir quel potentiel aurait pu avoir telle ou telle autre entreprise. Donc voilà, autant de défis. Il y en a un bon paquet comme ça. Je voulais juste citer deux qui me sont venus à l'esprit et qui sont plutôt pertinents en ce moment.
Alors, aujourd'hui, vous êtes installé en Amérique du Nord, mais vous travaillez à cheval entre les États-Unis, le Canada et des fois en Afrique du Sud. Dites-nous, comment vous faites pour réaliser tout ça? Quel est votre secret?
Mon secret, je ne sais pas s'il y en a vraiment, mais je peux vous dire que c'est la passion. La passion, je suis très passionné par mon domaine. Moi, je pense que l'informatique, les technologies de l'information sont et devraient rester un outil au service de la prospérité des entreprises. Je suis passionné de ce que je fais. Je suis peut-être pas le plus technicien des informaticiens ou le plus spectaculaire, mais en tout cas, toutes les personnes qui m'ont côtoyé, toutes les personnes qui me connaissent savent à quel point je suis passionné et je me remets toujours en cause. Je me remets toujours en cause, j'essaie de me recycler, je ne me permets pas de tomber dans la complaisance sur base des drôles accomplissements du passé. Donc là, j'ai eu le privilège, par exemple, entre autres, d'avoir cet entretien parce que je suis le premier docteur en informatique de gestion produit par l'Université de Johannesburg qui existe depuis 50 ans. Donc ça en soi, c'est une statue, c'est une médaille que je pourrais garder et je pourrais aussi peut-être me permettre de tomber dans la facilité pendant des années à venir. Mais moi, je suis déjà passé à autre chose. Autant je célèbre ce que j'ai accompli, j'ai toujours eu en moi la mentalité de viser plus grand, de viser plus haut. Donc ce que j'ai accompli au bout de 18, bientôt 20 ans, n'a pas été accompli du jour au lendemain. Je ne me mets pas trop de pression. J'y vais étape par étape. Je ne me suis jamais comparé à quelqu'un d'autre. Donc mes opportunités, je les saisis. Je fais ce que j'ai à faire de la meilleure manière possible. Et de fil en aiguille, je saisis les opportunités qui se présentent en moi. Si vous me demandez aujourd'hui comment je fais, j'ai presque envie de vous dire que je ne fais pas. Parce que je vois grand, je vois loin, je rêve grand, mais pour moi le quotidien est très important. Autant j'ai envie d'être le plus grand, j'ai envie d'atteindre le top dans le domaine qui m'intéresse, autant je pense que ce que je fais les 24 heures que Dieu m'a accordé aujourd'hui est très important et très déterminant pour la suite.
Docteur Jean-Paul Mbuyamba Muka, je rappelle que vous êtes le premier Congolais docteur en informatique de gestion produit par l'Université de Johannesburg. Vous avez quitté le pays depuis 1998. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Avez-vous autre chose à ajouter avant que nous puissions mettre fin à cet entretien?
Oui, si vous le permettez, j'aimerais juste que cet exemple de réussite, cet exemple d'excellence académique et professionnelle inspire d'autres. Parce que, comme j'aime à le répéter, je ne suis pas un Congolais, on va dire, au-dessus de tous les autres. Je ne suis pas fils d'eux. J'ai eu une formation, j'ai juste eu une formation normale. Et mes parents ont tenu à mon éducation, mon instruction, ils ont mis le nez sur la formation, notamment académique. Donc, il y en a beaucoup. Je suis un parmi beaucoup de Congolais qui ont autant de potentiel que moi. Mmh. Mais vous savez, dans la vie, le potentiel et même le génie intellectuel, ce n'est pas suffisant. Donc, à cela, il faut ajouter certaines vertus, certaines qualités, telles que les convictions. Je suis convaincu que je suis dans la bonne discipline. Et lorsque j'exerce mon métier, j'ai des convictions, en fait. Et ces convictions-là, c'est ça qui élève mon génie intellectuel. Et je suis passionné. Beaucoup trop de jeunes, aujourd'hui, en tout cas de mon expérience, ont perdu la passion. Ils sont dans l'opportunisme, dans l'attentisme. Vous voyez des gens qui font des études, qui embrassent des carrières, qui n'ont rien à voir avec leur passion parce qu'on leur aurait soufflé que ça paye bien dans ce domaine-là. Mm-hmm. Moi, tout le conseil que je donne, à beaucoup d'étudiants et des jeunes entrepreneurs que j'encadre, ou des jeunes professionnels, voulais-je dire, que j'encadre, c'est que la vie est trop courte pour se retrouver emprisonné dans une carrière, dans un métier qui ne vous fait pas vouloir vous lever le matin. Donc, il faut découvrir sa passion. Il faut découvrir sa passion et même lorsque l'on vous dit que ça ne paye pas bien, ce métier-là. On ne travaille pas, on ne va pas à l'école que pour payer les factures. Attention, payer les factures est important. Mais je suis de ceux qui croient que lorsqu'on a découvert sa passion, on finit toujours par en tirer les dividendes. Parfois, ils ne sont pas monétaires, parfois, c'est la reconnaissance de ses pairs, mais on peut toujours finir par transformer tout ça on peut finir par monnayer tout ça. Donc, ça, c'est un conseil que je donne à tous les Congolais qui m'écoutent en ce moment, surtout les étudiants et les jeunes professionnels. Et je finirai par dire, si vous permettez, qu'il faut se donner une chance de réussir. J'ai constaté que la culture dans mon pays, au fur et à mesure que je fréquente mon pays, le curseur moral a beaucoup changé, a beaucoup bougé, et on est tombé dans la facilité, vous êtes congolaise, donc la fameuse idéologie du champ de l'Okopamba. C'est une culture que moi je fustige, parce que la vie c'est pas ça. Dans la vie, il faut se préparer à réussir. Il faut se donner une chance de réussir. Pour une personne qui excelle sur un coup de bâton magique, il y a des milliers, des millions qui échouent. Donc, pensez que l'on atteindra le top parce que l'autre qui, a priori, n'avait pas le prérequis qu'il a fait, à mon avis, c'est un pari hyper risqué. Les jeunes doivent se remettre aux valeurs fondamentales du travail, de la patience et de la construction de leur réussite. Et aussi prendre des responsabilités le plus tôt possible, parce que dans mon cas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'ai toujours été relativement précoce. Pas parce que je l'ai voulu, parce que la vie m'a bien traité, non. Mais parce que très souvent, j'ai sauté sur les opportunités, même lorsqu'il n'était pas très clair que j'avais les prérequis pour prendre des responsabilités. J'ai toujours voulu prendre des responsabilités, parce que ça vous rend beaucoup plus fort, ça vous met face à des risques, des responsabilités. Ainsi, en le faisant, vous profitez des opportunités que la vie vous offre. Sans ça, vous ne serez jamais ce que vous aurez pu être capable d'accomplir dans la vie. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire.
Encore une fois, merci.
C'est moi qui vous remercie.